7h41 minutes à CIM, 103-903. Vous souhaitez un agréable lundi matin. Si vous avez vu la une du Journal de Montréal de ce matin, eh bien, il y a 60 pédiatres viennent à la charge dans ce dossier qu'on avait lancé, lettre ouverte qu'on avait émis, c'est-à-dire en janvier dernier, alors que des pédiatres, des médecins s'étaient penchés sur si on veut, la surconsommation de médicaments en lien avec nos enfants qui sont atteints de TDAH dans les écoles. Et pour justement arriver avec des pistes de solutions, on discute ce matin avec le docteur en neurosciences, Joël Mongé, qui est avec nous. Bonjour, docteur, comment allez-vous?
Bien, et vous-même?
Oui, ça va bien. Autre dossier important qui surgit ce matin?
Oui, en fait, disons qu'il y a 3 semaines, on était sortis en dénonçant qu'il y a un problème de surconsommation et de surdiagnostic autour du TDAH. Et aujourd'hui, en fait, on est sortis avec des pistes de solutions.
Et quelles sont ces solutions?
Mais en fait, il va falloir arrêter. La théorie dominante a eu tendance pendant des années, même si je l'ai dénoncée abondamment, à considérer l'enfant comme seul porteur de ses difficultés, de ses défis. On disait que c'était un trouble d'origine génétique, on disait que c'était un trouble neurodéveloppemental, alors que moi, j'essaie d'attirer l'attention sur d'autres solutions. La chance d'être, même si je fais partie des gens qui ont co-signé, je ne suis pas médecin, donc automatiquement, je n'utilise pas le médicament comme outil de travail. Et à force de travailler justement avec des enfants, avec des adolescents, avec des familles, mais on a pu identifier un certain nombre de phénomènes qui sont assez fréquents, notamment par exemple la surutilisation des écrans, qui autant l'utilisation des écrans de loisirs, donc c'est-à-dire le chatting où les jeunes essaient de répondre le plus rapidement possible, ils sont sur 3-4 conversations en parallèle, ou éventuellement même ils répondent pendant les cours à leurs amis, ou regardent le nombre de likes qu'ils ont reçus sur leurs photos qu'ils ont mis sur Instagram. Donc il y a ce genre de phénomène-là, ou pire, je pense, c'est les jeux vidéo, où les jeux vidéo en fait conditionnent le cerveau à fonctionner comme s'ils étaient dans une forêt en train de survivre à une situation de chasse ou une situation de guerre, ce qui fait qu'au moment où ils sont en classe, au moment où ils doivent se concentrer, même avec le meilleur prof au monde, il n'y a personne qui peut les stimuler de la même manière.
Moi, ce qui m'inquiète, puis j'ai une question en lien justement avec, contrôler un peu les jeux vidéo. Quand on me dit, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, soit dit en passant, on n'a pas le choix de nos enfants, c'est la réalité, ils viennent au monde quasi avec un téléphone intelligent dans les mains. Mais qu'en est-il du fait qu'on nous dit que, bon, c'est bien pour la concentration des jeunes de pouvoir jouer continuellement aux jeux vidéo? Ce sont des paroles que l'on entend, ça, dans l'entourage, là.
Mais en fait, c'est vrai que ça aide à la concentration, sauf que la libération de dopamine au moment où on se concentre sur un jeu vidéo est tellement importante qu'après, il n'y a aucune personne qui est capable de stimuler de la même manière. C'est-à-dire que si on est avec quelque chose de très, très puissant, mettons par exemple, vous êtes face à un spot de 10 000 watts, d'accord? Il va éclairer. Puis vous regardez une lampe de 100 watts, on s'entend que vous ne verrez pas de la même manière. L'ampoule ne sera pas suffisamment éclairante pour pouvoir être capable de voir comme vous le voyez avec un 10 000 watts. Et c'est ça qui se passe dans le cerveau. Donc il faut faire attention justement à ces éléments-là. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'il y a des études où on a des résultats préliminaires pour l'instant qui sont dans les sociétés scientifiques, mais on sait en fait qu'un enfant qui... Le cerveau, en fait, atteint sa pleine maturité seulement en 40 et 45 ans. Donc, ça veut dire que le cortex va maturer d'année en année et il va atteindre son maximum, son pic de maturation dans la quarantaine. Eh bien, ce qu'on a observé, c'est qu'à partir de 2 heures d'écran de loisirs par jour, on voit en fait que cette maturation est en train de ralentir fortement et que les jeunes qui sont 7 heures par jour sur des jeux vidéo ou le chatting, on voit en fait que le phénomène s'inverse. Donc on retrouve des jeunes qui vont avoir de plus en plus de difficultés comme si c'était des personnes âgées. Donc ils ne peuvent pas fonctionner en classe. Et en plus, comme ils ne bougent pas assez, comme ils sont hyper sédentarisés, leur corps manque d'oxygène, leur cerveau va manquer d'oxygène, donc il va y avoir là aussi des problèmes de concentration. Pour pouvoir apprendre, il faut bouger, il faut que les enfants soient capables de pouvoir arriver en fait à avoir un corps et s'arrimer, le cognitif s'arrime sur le corps. Donc s'ils sont trop souvent ou trop précocement sur une tablette, à ce moment-là, il va y avoir des problèmes qui vont s'accumuler d'année en année.
Ça fait partie des solutions que vous proposez d'ailleurs, davantage d'activités physiques et aussi améliorer l'accès aux services psychosociaux.
Oui, parce qu'en fait, les personnes qui ont besoin de support, en fait, ne serait-ce que pour modifier les habitudes familiales, quand ils vont au CLSC, le CLSC n'ont pas les ressources, en fait, pour pouvoir répondre à la demande, sauf si c'est une situation d'extrême urgence. Donc, c'est là qu'on a eu le réflexe à de nombreuses reprises de recourir à la médication pour normaliser le comportement du jeune, en espérant qu'éventuellement les parents de leur propre chef aillent consulter en privé ou éventuellement changent leurs habitudes de vie. Mais comme dans le même temps, il y a certains collègues qui ont eu tendance à prétendre que justement c'était d'origine génétique, c'était neurodéveloppemental, mais les parents n'ont pas le discours adéquat qui fait en sorte que, hey, on a une part de responsabilité. Donc, c'est pas de la faute des parents, c'est pas de la faute de personne, c'est juste que nous sommes face à un problème social et que, aujourd'hui, on dirait que je suis plus tout seul à essayer de sensibiliser les gens à l'impact de nos habitudes de vie.
Et autre impact aussi, très surprise de lire ce matin dans le Journal de Montréal qu'on commence à donner du Ritalin aux enfants à la garderie.
Ça, c'est inquiétant.
Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les médecins vont résister beaucoup à la prescription de Ritalin avant 6 ans. En fait, les normes établies en fait, par le Collège des médecins, c'est qu'on ne devrait pas prescrire du Ritalin avant 6 ans, sauf dans des cas d'extrême urgence, parce que le jeune est complètement désorganisé. Maintenant, il faudrait essayer de comprendre pourquoi le jeune est complètement désorganisé. Mm-hmm. Si le jeune, par exemple, mange trop de nourriture industrielle et que à ce moment-là, il y a du sucre blanc notamment, ou qu'il y a des colorants dans ce qu'il va consommer, il va y avoir un impact sur son comportement. Mais si on ne regarde pas ce que le jeune ingère, on se trompe peut-être de direction thérapeutique. Quel est l'impact des écrans? Le bébé Einstein, c'est la plus mauvaise idée qu'on peut avoir pour, en tant que parent, de mettre notre enfant devant la télévision, devant ce type d'émission, ou c'est encore pire quand ils sont sur des tablettes. Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre très connu en Europe, dit qu'on ne devrait jamais mettre un enfant sur une tablette avant 6 ans, parce qu'on commence à voir les impacts que ça peut avoir sur la malformation de leur cerveau. On peut avoir des enfants qui souffrent d'un trouble de l'attachement. Donc, il y a un moment donné où le jeune, il est tellement mal avec lui, il n'arrive tellement pas à faire confiance aux personnes autour de lui qu'il se désorganise. Alors, il y en a certains qui partent dans la lune et il y en a beaucoup d'autres qui vont probablement être suractifs, éventuellement frappés, mordre, pincer. Il y en a d'autres qui vont chercher de l'attention négative parce que un enfant va préférer de l'attention négative plutôt que de ne pas avoir d'attention du tout. Mais si tous ces éléments-là ne sont pas observé par le médecin ou observé par le CPE ou observé par l'école ou les parents, on risque à ce moment-là de diagnostiquer un trouble neurodéveloppemental là où on est juste en face d'un jeune qui a besoin de support, qui a besoin d'aide particulière pour être capable de se développer normalement.
Docteur Monzé, le temps nous presse un peu, mais on serait curieux de vous entendre sur... Là, on a émis des pistes de solutions. Ça s'adresse à qui? Qui doit lire exactement textuellement ces dites propositions?
Mais en fait, on a la chance pour l'instant d'avoir un jeune gouvernement avec deux ministres qui sont directement interpellés par rapport à ça. Le premier, c'est Lionel Carman, qui est ministre délégué aux services sociaux, qui doit mettre en place un plan d'évaluation et de prévention d'un certain nombre de troubles qu'on va retrouver chez l'enfant. Mais dans le même temps, on va avoir le ministre de l'Éducation, qui est Jean-François Roberge, qui lui, avec notamment le projet de maternelle 4, il va y avoir une nécessité qu'on se parle tous ensemble et qu'on aborde les choses. Il va y avoir aussi les ordres professionnels, le Collège des médecins et l'Ordre des psychologues sont interpellés par rapport à ça, parce que quelque part, le Collège des médecins doit peut-être réviser la manière dont on prescrit les médicaments. Par exemple, en France, on ne peut pas prescrire de psychostimulants si on n'est pas neuropédiatre ou pédopsychiatre. Et il faut faire la démonstration que pendant 6 mois, il y a eu un soutien social qui a été mis en place pour s'assurer justement qu'on ne se trompe pas de direction thérapeutique. Mais ça n'existe pas ici au Québec parce que malheureusement, le réflexe de vouloir médicamenter, puis le parent il fait ce qu'il peut, il fait, et à un moment donné il n'en peut plus, l'équipe éducative aussi autour de lui, ce qui fait que le médecin il intervient dans une situation comme si c'était un pompier, il intervient dans une situation d'urgence. Donc la manière d'évaluer les choses, je pense que quelque part, moi je suis psychothérapeute, ce qui fait qu'en somme, quand je vois en fait les familles, comme je n'utilise pas le médicament, mais je peux travailler sur un paquet de facteurs sur lesquels ils vont faire. Mais je suis au privé. Donc, autrement dit, si ce genre de service-là n'existe pas au CLSC, il va falloir qu'on les mette en place. Donc là, c'est le système de santé qu'il faut réviser aussi.
Exact. Docteur Joël Monzé, docteur en neurosciences, c'est fort intéressant de vous entendre. On voit que c'est pas simple quand même. Il y a plusieurs acteurs qui doivent intervenir et agir autrement. Pour ceux qui veulent réentendre votre entrevue, elle se retrouvera sur le cim.fm. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le sujet ce matin.
Avec plaisir.